Chapitre 4. Le lendemain matin, un soleil radieux s'était levé sur le petit village et sur la baie, où les navires étaient encore à l'ancre. Depuis longtemps, tout était en mouvement, et les travaux de chaque jour avaient recommencé. Les paysans acadiens des pays environnants ont commencé à arriver avec leurs habits de fête. Les joyeux bonjours, les rires enjoués de la jeunesse augmentaient encore le charme de cette belle matinée. De partout apparaissaient des groupes qui se réunissaient et regagnaient la grande route. Tout bruit de travail avait cessé dans le village bien avant midi. Les rues étaient pleines de monde, et devant chaque porte étaient assis des groupes bruyants qui échangeaient des plaisanteries ou des histoires. Dans chaque maison, tous étaient bien reçus et fêtés, car chez ces gens simples qui vivaient ensemble comme des frères, tout était en commun, et on aimait partager. Mais c'est sous le toit de Bénédicte que l'hospitalité paraissait la plus large, car Évangeline était là, au milieu des hôtes de son père. Sa figure souriante, ses paroles de bon accueil et de joie, la gentillesse avec laquelle elle invitait à se rafraîchir les visiteurs de son père, augmentaient encore le charme de cette fraternelle hospitalité. Le repas des fiançailles eut lieu en plein air, au milieu du verger, dont les fruits dorés parfumaient l'air. À l'ombre du porche d'entrée étaient assis le prêtre et le notaire, ainsi que le bon Bénédicte et le robuste Basile. Non loin de ces derniers, tout près du pressoir à cidre, on avait placé Michel, le violoneux. Ses cheveux blancs flottaient au vent, et son visage était rempli de joie. Au son vibrant de son violon, le vieillard chantait, d'une voix entraînante. Ici et là, les couples, jeunes et vieux confondus ensemble, les enfants comme les autres, tourbillonnaient dans des rondes sans fin, sous les arbres du verger ou sur le sentier de la prairie. Entre les jeunes filles, la plus belle était l'aimable Évangeline. Le plus beau et le plus brave parmi les garçons était Gabriel, le fils du forgeron. Ainsi s'écoulait la matinée. Tout à coup, la cloche a lancé un appel retentissant, et dans les prairies, on a entendu résonner le tambour. Aussitôt, les hommes se sont dirigés vers l'église, pendant que les femmes attendaient dans le cimetière. Les soldats anglais sont arrivés, ont passé fièrement au milieu de la foule. Les battements de leurs tambours et le bruit de leurs pas cadencés ont retenti dans l'église. Mais cela n'a duré qu'un instant. Les lourdes portes ont été refermées et un silence profond régnait. Alors, le commandant anglais s'est levé et du haut des marches de l'hôtel, tenant à la main sa lettre officielle, il s'exprima ainsi. « C'est par ordre de Sa Majesté que vous êtes convoqués aujourd'hui. Le roi s'est montré bon avec vous. C'est à vos cœurs de dire comment vous avez répondu à sa gentillesse. Interrogez vos consciences. La mission que je remplis en ce moment ne me plaît pas, et je sais qu'elle est bien pénible pour vous. Mais je dois obéir et vous transmettre la volonté de notre roi. Cette volonté, la voici. Toutes vos terres, vos demeures, vos troupeaux de toute espèce sont confisqués au profit de la couronne d'Angleterre. Quant à vous, vous serez transportés de cette province sous d'autres cieux. Dieu veut que vous viviez désormais heureux et pacifique, en nation prospère et en fidèle sujet. Dès à présent, je vous déclare prisonnier, car Sa Majesté en a décidé ainsi. » Les paroles du commandant anglais tombèrent sur le cœur des Acadiens comme ces puissants orages d'été qui détruisent les récoltes dans les champs, les fruits sur les arbres et font peur aux animaux qui s'enfuient, terrorisés. Stupéfaits, les paysans demeurèrent un moment silencieux. Mais bientôt s'éleva, toujours plus forte, leur colère. Poussés par la même impulsion, tous se précipitèrent vers la porte de l'église pour fuir leurs oppresseurs. Hélas, il leur était impossible de s'échapper. Alors ils se mirent à crier, à maudire et à insulter les Anglais. Tout à coup, au-dessus de toutes les têtes, se dressa Basile le forgeron, les bras levés en l'air, la face enflammée par la colère. Il s'exclama : abat les tyrans d'Angleterre. Ils n'ont jamais reçu notre serment de fidélité. À mort ces soldats de l'étranger qui nous volent nos maisons et nos récoltes. » Il allait en dire davantage, mais la main d'un soldat lui ferma la bouche d'un coup brutal, et il tomba sur les dalles de l'église. Soudain, au milieu de la lutte et du désordre, la porte du sanctuaire s'ouvrit et livra passage au père Félicien, le curé. D'un geste de la main, il imposa le silence à cette foule agitée qui le respectait profondément. Puis, il s'adressa au peuple. Sa voix était grave. « Que faites-vous là, mes enfants ? » dit-il. « Quel délire vous a surpris ? J'ai passé parmi vous 40 années de ma vie pour vous enseigner non seulement par mes discours, mais par mes actes, à vous aimer les uns les autres. Et voilà le résultat de mes prières ? Avez-vous oublié mes leçons d'amour et de miséricorde ? Voudriez-vous profaner cette église avec vos cœurs remplis de haine et par des actions de violence ? En ce moment difficile où les méchants nous attaquent, répétons ensemble cette prière que Jésus a prononcée à l'heure de sa mort. Ô Père, pardonnez-leur. » Ces paroles de reproche pénétrèrent profondément dans le cœur de ces hommes simples et bons que la douleur avait changés. Ils répétèrent alors cette prière. Ô Père, pardonnez-leur. Et le calme revint dans cette foule, si vivement ému quelques minutes auparavant. Ensuite, le service du soir commença. Les cierges furent allumés et les Acadiens oublièrent un instant, dans la prière, le destin douloureux qui leur était réservé. Cependant, la nouvelle s'était répandue dans le village. Partout, on voyait les femmes et les enfants aller de maison en maison en pleurant. Évangeline attendait le retour de Bénédicte depuis longtemps, à la porte de la maison paternelle. À l'intérieur, tout était prêt pour le repas du soir. Peu à peu, le jour baissait et le soleil couchant projetait les grandes ombres des arbres sur des prairies parfumées. Évangeline, de plus en plus inquiète, sentait son âme envahie par la tristesse. Et cependant, malgré son inquiétude, des sentiments de résignation pénétraient son âme naturellement bonne. S'oubliant alors entièrement, elle se dirigea vers le village, parcourant les sentiers, consolant les femmes éplorées qui regagnaient leur demeure ou les rappelaient les soins du ménage et la fatigue de leurs enfants. Le soleil, ce jour-là, se coucha au milieu de vapeurs qui voilaient sa face, et bientôt l'Angélus tinta doucement. Évangeline se dirigea vers l'église et attendit quelque temps, allant et venant autour de l'édifice, à l'intérieur duquel régnait le plus profond silence. Bientôt, vaincue par l'inquiétude, elle cria d'une voix qui trahissait sa crainte « Gabriel !» Mais aucune réponse ne se fit entendre. Enfin, la pauvre enfant retourna d'un pas lent vers la ferme toujours déserte, et désormais sans maître. Le feu brûlait dans la cheminée et le souper était intact. Les chambres vides et abandonnées avaient un aspect lugubre et terrifiant. Les pas d'Évangeline résonnaient tristement sur les escaliers et sur le parquet de sa chambre. Au milieu du silence de la nuit, elle entendait la pluie tomber avec bruit sur les feuilles du sycomore qui se trouvaient près de la fenêtre. La nuit sombre était traversée d'éclairs, et la voix retentissante du tonnerre semblait lui rappeler la justice de Dieu. Alors, elle pensa tendrement à Gabriel, et elle s'endormit dans une pensée d'espérance et de résignation.